VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Mauritanie, la Cour suprême examine depuis hier le pourvoi en cassation de 3 militants anti-esclavagistes condamnés à 2 ans de prison. Plus de détails avec Idriss Fall.
Biram Ould Da Ould Abeid, président de l'ONG anti-esclavagiste IRA Mauritanie, son adjoint Brahim Ould Bilal et Djibi Sow ont été condamnés en janvier 2015 à 2 ans de prison et leurs peines ont été confirmées en appel en août dernier. Ils ont été reconnus coupables d'appartenance à une organisation non reconnue et de rébellion contre la force publique. Djibi Sow a bénéficié en juin 2015 d'une mise en liberté provisoire pour raison de santé. Maître Brahim Ould Ebeti, leur avocat, demande l'annulation de toutes les procédures et leur libération. Le dossier est devant la chambre pénale de la Cour suprême qui doit examiner ce pourvoi en cassation. Depuis 1981, l'esclavage est aboli en Mauritanie, mais le phénomène persiste. En août 2015, une nouvelle loi a été adoptée réprimant cette pratique par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison contre 5 à 10 ans auparavant. Le pays s'est doté en décembre de 3 tribunaux spécialisés dans les affaires d'esclavage et le mois dernier a décrété le 6 mars. Journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes.
Conflit au Soudan du Sud, le processus de paix dans le pays est en danger, selon le chef des observateurs internationaux. La raison serait l'incertitude pesant sur le retour du leader de l'ex-rébellion, Riek Machar, dans la capitale Djouba, pour y prendre ses fonctions de vice-président. L'accord est en danger, a déclaré dans un communiqué l'ancien chef d'État botswanais, Festus Mogae, qui préside la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Monsieur Machar a repoussé hier pour le deuxième jour consécutif son retour à Djouba et rien ne garantit qu'il viendra aujourd'hui, même si l'ex-rébellion affirme qu'il reste déterminé à œuvrer pour la paix. En RDC, le siège de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, parti d'opposition, a été attaqué et saccagé à Kinshasa et aussi à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Son président, Antoine Gabriel Kiongoua Kumwanza, l'un des 7 leaders de la majorité qui ont rejoint l'opposition et soutiennent maintenant Moïse Katumbi, accuse le pouvoir de Kinshasa d'avoir ordonné cette mise à sac. On écoute Antoine Gabriel Kiongoua Kumwanza au micro d'Eddie Sango.
Ce sont des rebelles appuyés par le pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir de le faire parce que nous sommes un parti politique légalement reconnu. Le tribunal de grande instance, le tribunal d'appel de Gombe à Kinshasa a confirmé le fait que l'UNAFEC a un seul président, c'est M. Kiongoua Kumwanza. Nous, l'UNAFEC que je dirige, nous avons mis fin à nos relations avec M. Kabila qui ne veut pas respecter la Constitution et nous avons refusé avec tous les autres de faire route avec lui.
Antoine Gabriel Kiongoua Kumwanza, président de l'UNAFEC. Politique au Tchad, alors que les Tchadiens attendent les résultats de la présidentielle du 10 avril dernier, l'opposition dénonce quasi quotidiennement le dépouillement de ce scrutin qu'elle juge irrégulier à tous les points de vue. Les opposants réclament aussi une enquête sur le déroulement du vote des militaires et protestent contre les arrestations de soldats qui n'auraient pas voté pour le président Idriss Déby Itno qui brigue un 5e mandat. Les commentaires de Saleh Kebzabo, candidat à la présidence et chef de file de l'opposition.
Mais je pense que globalement, cette élection a été un exercice pénible pour tout le monde. Et ça a été aussi un exercice qui a écorché la démocratie. Je crois que le Tchad, c'est pénible de le dire, n'avance pas. Le Tchad fait du surplace, on ne veut pas dire qu'il recule. Et ça, c'est dommage pour notre démocratie.
Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau. La République centrafricaine vient de prendre part aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI ici à Washington. Le pays qui tente de sortir de 3 ans de crise fait face à d'énormes défis. Le ministre centrafricain de l'économie, Félix Mouloua, situe les enjeux au micro de Pascaline Bamoko.
La question maintenant revient aux centrafricains de maintenir le climat apaisé parce que nous devons tourner complètement la page. Nous devons gérer avec la bonne gouvernance, comme le président l'a si bien prôné, pour drainer des partenaires, des investisseurs au pays, pour booster donc le secteur privé et créer de l'emploi. Cette question de déplacer du secteur privé, et nous les avons longuement discuté avec nos partenaires, qui ont manifesté leur disponibilité à nous aider. Alors maintenant, il faudrait qu'on se remette au travail et changer notre manière de nous comporter et de traiter les dossiers à temps. Et là, j'y veillerai de manière exceptionnelle, de telle manière que toutes les compétences soient mises en compétition, parce que nous devons sortir ce pays de cette zone de fragilité et de conflit.
Le ministre centrafricain de l'économie, Félix Mauloy.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. La démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump ont remporté haut la main hier soir les élections primaires cruciales de l'État de New York, augmentant ainsi leur chance de devenir les candidats de leur parti respectif à la présidentielle de novembre. Le compte-rendu de Jacques Aristide, qui a couvert le scrutin pour VOA Afrique.
Des coups sévères apportés à leurs rivaux par deux candidats qui comptaient énormément sur leur lien avec New York pour les propulser vers la victoire.
Thank you, New York.
Et ils ne se sont pas trompés. Hillary Clinton, qui a représenté cet État au Sénat américain à deux reprises, obtenait environ 58% des suffrages contre son seul et unique concurrent, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Pour les observateurs, le succès de Mme Clinton à New York gonfle ses chances de représenter son parti dans la bataille pour la Maison-Blanche. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a lui repris le contrôle de cette course à l'investiture.
This has been an incredible evening. It's been an incredible day and week.
Le New Yorkais l'emporté par un peu plus de 60% face à ses deux rivaux, le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, et le sénateur du Texas, Ted Cruz. Jacques Aristide, New York, pour VOA Afrique.
Par ailleurs, le chef de l'exécutif américain, Barack Obama, entame ce mercredi une visite en Arabie Saoudite, sa quatrième en tant que président. Il doit rencontrer le roi Salman à Riyad avant de prendre part jeudi au sommet du Conseil de coopération du Golfe, qui regroupe outre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et Oman. La visite du président Obama arrive à un moment de tension dans les relations entre Washington et Riyad. Pour un éclairage, Timothée Donagmaï a joint ici à Washington Walid Fares, conseiller du Congrès américain en matière de lutte contre le terrorisme.
Il y a une crise nouvelle maintenant, c'est cette législation, ce projet de loi au Congrès américain qui demande au président américain d'ouvrir ou bien de faire public les 28 pages du rapport de la commission du 11 septembre depuis 2004. Certains voient que dans ces 28 pages, il y aurait peut-être une implication d'officiels saoudiens en ce qui concerne l'appui de la cellule djihadiste qui a perpétué, qui a en fait attaqué New York et Washington.
Alors pourquoi les Saoudiens redoutent une publication de ces pages?
On a bien analysé l'histoire. Ce n'est pas à propos des faits. Les faits ont été vus déjà par les commissionnaires en fait en 2004. Il n'y aurait pas une implication directe du cabinet, du gouvernement, des décideurs politiques de l'Arabie saoudite en ce qui concerne l'appui à l'Al-Qaïda ou en ce qui concerne un appui direct à l'opération du 11 septembre. Ce que les Saoudiens ont peur de voir arriver, c'est la deuxième partie de cet acte, c'est-à-dire que les citoyens américains, que les compagnies américaines, que les familles américaines demanderaient donc à la justice américaine des réparations ou bien du gouvernement saoudien, mais aussi des familles saoudiennes, et cela pourrait créer une crise dans le royaume.
L'Arabie saoudite menace de liquider quelques 750 milliards d'avoirs américains qu'elle détient. Est-ce qu'elle pourrait mettre sa menace à exécution?
Il y a encore une grande distance entre l'état où nous sommes maintenant, il y a les négociations entre le président et la monarchie saoudienne, et l'exécution. Parce que quand on parle d'exécution, le retrait de l'argent saoudien ou quelque chose de semblable, nous sommes déjà dans la crise. La crise est là, mais la crise peut encore être réparée. Le plus important, c'est que le dialogue entre l'administration et le Congrès américain puisse trouver une solution.
Walid Fares, expert en lutte antiterroriste. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.